France Inter.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Je vais vous emmener déjeuner chez deux superbes filles en botte et puis on jouera avec la nourriture car c'est l'été et on a le droit de faire tout ce qui nous plaît. On va cuisiner ensemble une délicieuse alternative à la mayonnaise à concocter en maillot de bain.
C'est l'été, on va aller se promener à Vézelay, en Belgique, en Savoie, dans l'Aveyron et aussi au cinéma.
Nous allons passer la frontière, je vais vous servir une adresse et une recette italienne, mais avec un accent français qui traîne encore un peu.
On s'attable entre l'océan et l'estuaire dans une auberge de campagne et on goûte un grand rouge.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Ça y est, l'école est finie. C'est le dernier jour de classe avant les grandes vacances, c'est officiellement l'été depuis hier. Alors on vous propose un pur moment de détente et de partage où tout est permis ou presque. Pas d'invité, pas de menu imposé, pas de chronique formatée, juste un grand mezzé de bonnes infos, de bonnes ondes et de bonne humeur pour nous préparer un sapi d'été 2025. Il y en aura pour tous les goûts, des restos sur la route des vacances, des recettes ensoleillées, une belle cuvée à déboucher, des lectures nourrissantes, des films portés sur la chose. Et tout ça servi par les chroniqueurs et les chroniqueuses dont vous avez peut-être reconnu la voix dans l'entame de cette émission. Alors pour vous servir aujourd'hui, Zazie Tavitian, Manon Fleury, Laurent Delmas, Alessandra Pierini, Jérôme Gagnez. Salut les copines et les copains.
Bonjour.
Comment ça va?
Très bien.
Le sapi d'été dont va déguster est mitonné derrière la vitre de la régie par Laurent Thomas avec Maxime Goudard à la technique et préparé par Fabrice Rivaud. Retrouvez tous nos bons plans de l'été et tous nos podcasts sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Ah, je m'en suis renversé un peu dessus.
Moi aussi.
Et oui, c'est le bruit qui indique l'heure de l'apéro, évidemment. Bon, déjà, vous connaissez l'étymologie du mot apéro ou pas?
Ouvrir, ça ouvre l'appétit.
Absolument, apéro de apéritif qui vient du latin apérire. Ouvrir, sous-entendu, ouvrir l'appétit. Un point pour vous, Jérôme Gagnez. Il est bon.
Le capello de l'émission.
Non, mais on savait qu'en matière d'apéro, il était absolument incollable.
Je suis pas le dernier.
Et vous entendez évidemment le bruit des glaçons dans un verre avec un apéritif surprise. À vous de me dire ce que vous en pensez. On va faire un petit tour de table en commençant par Zazie.
Déjà, il y a un côté un peu herbacé au nez. Là, je viens de goûter, donc très frais. Et j'aurais dit un petit côté clou de girofle, un petit peu.
Manon Fleury.
Oui, moi, comme ça, ça me fait penser un peu à un vermouth.
Bon, elle a lâché le mot.
Oui.
Et je crois qu'elle a un point.
Il y a plusieurs herbes dans l'infusion. Peut-être des herbes type romarin ou thym.
Romarin, un point. Thym, un point.
Cool.
Waouh, wow. Elle est en train de les enchaîner. Hein. Vous nous avez pas parlé de la couleur.
C'est une couleur jaune en gris,
couleur d'un vin blanc.
Exactement.
Oui, Alessandra, couleur d'un vin blanc. Donc ça veut dire qu'en termes de catégorie d'apéritif, on est dans un
vermouth blanc.
Un vermouth blanc.
Dans un vermouth blanc.
Et il y a de toute évidence quand même probablement de l'agrume. Il y a une fantastique amertume qui est magnifique. J'aurais ajouté à ce que disait Manon peut-être.
Gentiane.
Je pensais fortement à la gentiane.
Poivrée, ça n'existe pas.
Alors, il y a des notes poivrées. Bah, vous avez tous un peu raison en fait. Le problème c'est qu'on ne sait pas tout. Est-ce que vous aimez?
J'adore, c'est très très
délicieux. C'est bon, c'est délicieux.
Ah oui, c'est
la finale
délicieux.
Est très intéressante. Ah ouais.
L'épice, on la sent vraiment beaucoup. Hein.
Pour une fois qu'on a un bon vermouth qui n'est pas italien, mais bien made in France. Non, je plaisante parce qu'en France, il y a quand même ce qu'il faut en matière de vermouth. Est-ce que vous voulez le résultat des jeux?
Oui.
C'est-à-dire la maison qu'il y a derrière, la composition aromatique. Et bien réponse avec Aurélien Carrelas.
Le vermouth blanc de la maison Quinacaro, donc une célèbre marque du cœur des Corbières située entre Narbonne et Carcassonne, qui a été inventée tout simplement en 1928 du célèbre fondateur André Caro de par sa recette au quinquina. Aujourd'hui, nous avons voulu aussi revisiter le côté apéritif à base de vin, puisque nous sommes sur un ABV, comme l'on appelle. Il s'agit d'un vin aromatisé avec de l'alcool qui a macéré avec des plantes aromatiques, plutôt du cœur des Corbières aussi en majorité, tels que le romarin, le thym, la sauge, la sarriette, mais surtout avec un produit de base qui est le vin, qui représente 85% du produit, puisqu'on sélectionne des lots avec des cépages endémiques du cœur des Corbières et du Languedoc pour avoir surtout une note de macabeu et de grenache blanc, qui sont des cépages qui sont historiques au département. Et donc, on va pouvoir surtout le déguster on the rocks, à l'apéritif, comme on le faisait depuis toujours, avec 5 centilitres dans un verre et quelques glaçons, mais aussi un cocktail ou un long drink, tel le célèbre cocktail de James Bond, le Dry Martini, par exemple.
Qui va la jouer, James Bond, là ? Alors, thym, romarin, sauge, sarriette, bravo. Vous avez cité d'autres épices, éventuellement des agrumes. Le problème, c'est qu'on ne saura pas tout. Puisqu'il y a 20 ingrédients, dont la plupart sont locaux. Si, il m'a aussi dit qu'il y avait de l'absinthe, ce qui pourrait expliquer peut-être cette trame amère. Oui. En tout cas, on ne peut pas en savoir tellement plus. Il cultive précieusement son secret. L'absinthe, vous savez que c'est d'ailleurs cet ingrédient qui a donné son nom au vermouth, puisqu'il paraît qu'absinthe se dit en allemand vermouth, W-E-R-M-U-T. Je vous apprends quelque chose.
Même si vous ne savez pas.
J'ignorais. Mmh. Pourtant, je suis germanophone un peu.
Notre chroniqueur vin valide ce vermouth blanc de Kinakaro.
Tout à fait. Tampon validé.
On se retrouve dans un instant pour une bonne adresse dans le Médoc, pour un casse-croûte italien et pour un livre qui nous en apprend sur la gastronomie tout en nous amusant. Tout ça, c'est juste après. Allons voir, ça c'est un des tubes de l'été signé Feu Chatterton. Bel été sur France Inter.
Quoi que les gens d'ici pensent, s'il n'est pas partout la même heure, il y a peut-être une chance que l'herbe soit plus verte ailleurs. Souvent tu attends la nuit quand plus rien ne fait mal et tu rêves que tu t'enfuis à la nage par le canal. Tu rêves d'un grand pays, d'une vie qui enivre comme celle que tu lis dans les pages des livres. Il est temps de vivre. Allons voir ce que la vie nous réserve. Ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien. Allons voir ce que la vie nous réserve. Ce que la vie nous réserve. Tu meurs d'envie d'aller voir par toi-même faire tes preuves. Et si c'était la mer à boire, eh bien que la mer t'abreuve. Le ciel sera toujours bas à ceux qui vivent sans courage. Tu ne les écoutes pas quand ils disent ce n'est pas de ton âge. Et tu vas vers ce pays, vers cette vie qui enivre, comme celle que tu lis le soir dans les pages des livres. Il est temps de vivre. Allons voir ce que la vie nous réserve. Ce que la vie nous réserve.
On vous sert sur un plateau tous nos plans gourmands pour un sapi d'été. Alors au cas où aucun auditeur ou auditrice ne s'en serait aperçu, notre chroniqueur vin Jérôme Gagnès s'est installé à Bordeaux, d'où il observe avec beaucoup d'attention et d'insistance le vignoble bordelais, la gastronomie bordelaise. Et vous avez une très belle adresse à nous recommander si on passe par le Médoc, Jérôme.
On s'attable dans un restaurant, une jolie auberge de campagne qui s'appelle Chez Paupiette. Chez comme un chez et Paupiette comme une paupiette.
Jeu de mots.
Nous sommes au nord du Médoc. Et dans cette partie en fait du Médoc, alors qu'on appelle la presqu'île, c'est un peu impropre puisque c'est pas vraiment une presqu'île, mais on est vraiment entre l'estuaire et l'océan. C'est une partie du Médoc qui est beaucoup plus sauvage, qui est moins rupine que la partie des grands crus. Hein, donc on est dans quelque chose qui est un petit peu plus rural, mais justement c'est ce qui à la fois en fait le charme et c'est une partie qui est très jolie.
Une huître délicieuse. Hein.
Il y a une très bonne huître dans le coin. Il y a beaucoup de très bons produits. Hein. Ça vaudrait un jour la peine de s'intéresser de très près à cette région.
Quand je vous disais qu'il faisait du lobbying pour Bordeaux.
Et donc là, on est chez Paupiette, dans lequel je me suis attablé grâce à l'excellent conseil de la très grande Véronique Dos, qui est directrice du château Félan-Ségur, qui connaît tout, surtout dans le Médoc. Et donc, elle me dit, il faut que tu ailles là-bas, c'est quand même très bien. Et c'était effectivement très bien. On s'y régale d'une cuisine assez familiale, qui est très joliment exécutée, notamment maintenant par l'ancien chef d'un restaurant médocain qui s'appelle le Saint-Julien, qui est une véritable
gloire
du Médoc, un restaurant absolument fabuleux. Et on a... surtout une jolie carte des vins qui met en avant les vins du Médoc. Et donc, très brièvement, vous pourrez vous régaler d'un château Tour Aucossan 2016, cuvée Simone, à 25 euros. Hein, 2016, le vin à 10 ans quasiment. C'est délicieux. La Tour Aucossan, c'est un excellent domaine. Un Petit Manou, qui est le deuxième vin du Clos Manou, qui est un très bon domaine du Médoc, à 26 euros. Et puis même un très joli blanc, la cuvée Antoinette du château Castera, à 30 euros.
Ces cuvées, Jérôme, qui accompagnent... quel plat précisément? Vous avez des exemples?
Tout à fait, monsieur. On a un tataki de thon, gingembre et kombawa qui ira très bien avec la cuvée Antoinette. On a évidemment l'incontournable œuf mayo parce qu'on ne peut pas vivre sans mayonnaise. Ça n'est pas possible. De l'œuf mayo à l'huile d'ortie du jardin de Paupiette, justement.
Très bien.
On se régalera également d'un tourne d'eau de canard sauce à l'orange parce que c'est aussi quand même le sud-ouest. Et donc, vous pouvez vous précipiter chez Paupiette, toutes les coordonnées sont sur le site de l'émission.
On se précipite chez Paupiette.
Chez Paupiette.
Chez Paupiette. Dans le Médoc.
Oui.
Merci beaucoup, Jérôme.
On va déguster.
La pizza peut avoir quand même une certaine dignité une fois qu'elle sort de Naples.
Sur France Inter.
La dignité de la pizza, ça va rester, Alessandra.
Si j'avais su, je ne serais pas venue aujourd'hui.
Ah, mais si, c'est même temps.
C'est la fin de la saison.
Tu l'as dit, ça, c'est magnifique.
C'est évident.
Sauf qu'on ne va pas parler pizza avec vous, chère Alessandra, notre spécialiste de la cucina italiana, mais on va parler plutôt cibo di strada.
Exact.
Que vous traduiriez par
cuisine de rue, street food,
street
si
food.
On veut aussi.
Et vous nous parlez d'un sandwich emblématique de la botte.
On part en fait en Émilie-Romagne, dans le centre-nord de l'Italie, c'est la région de Bologne, pour se comprendre. Une région où j'ai passé des vacances inoubliables quand j'étais toute jeune. J'ai choisi donc une recette qui sent bon les marchés italiens, les kiosques à la sortie de la plage, les pique-niques sous les pins, et c'est la piadina.
La piadina. Mmh. Autour de cette table, qui connaissait la piadina?
Bah, évidemment. Je l'ai découvert à Bologne, justement.
À Bologne.
Voilà, donc Zazie, qui est très italophile et italophage. Bien sûr. Qui connaissait sinon?
Non.
Et voilà, c'est ce pain plat, c'est un peu une galette toute simple qu'on garnit traditionnellement de jambon cru, roquette et surtout squacquerone ou stracchino, qui sont des fromages locaux, très doux, crémeux, bien coulants. On y met tout ce qu'on a envie de mettre dedans, on la mange tiède, on la plie en deux ou bien on la roule dans du papier et on la mange tout en marchant ou bien allongée sur un transat tout en bronzant.
On a le droit de dire que c'est un peu le tacos italien,
voilà.
Sauf qu'il s'agit de farine de blé. Hein.
C'est de la farine de blé. La recette de piadine que je vais vous donner, vous allez pouvoir la préparer très facilement.
Allons-y.
C'est une recette que j'ai trouvée dans le livre Sandwich de Jean-Noël Escoffier, qui est sorti il n'y a pas très longtemps aux éditions Flammarion. Dans ce très joli livre, il y a environ 150 recettes de sandwich, toutes très alléchantes. Et pour faire des piadines, c'est vraiment très facile. On mélange d'abord la farine avec du sel et un petit peu de levure.
Mmh.
Ensuite, on ajoute de l'eau tiède, de l'huile d'olive. Traditionnellement, on mettait du sandou, mais on peut mettre n'importe quelle matière grasse, même du beurre, si ça vous fait plaisir. On travaille la pâte jusqu'à obtenir une consistance souple, un peu élastique, mais pas forcément très lisse. Donc, on laisse reposer une petite heure. On la divise ensuite en boules de 120-130 grammes. On étale ces boules avec un rouleau pâtissier
pâtissier, en disque très fin d'environ 20-25 cm de diamètre. On fait chauffer à blanc une poêle et on fait cuire ces piadines 2 minutes de chaque côté. Ensuite, on met sur la moitié d'une piadine les ingrédients qu'on a envie de déguster. On plie la deuxième moitié, on obtient un demi-cercle et on mange ça un petit peu tiède.
Quel bonheur. Comment vous l'avez garni, votre piadina ?
Alors, dans celle que vous mangez, vous avez des courgettes grillées, de la ricotta fraîche, un petit peu d'huile d'olive et surtout beaucoup de roquettes.
Bravo, c'est
mais
très
on peut mettre
délicieux.
Du jambon, délicieux, de la mozzarella.
La roquette qui est tombée comme ça à la chaleur, c'est j'aime.
C'est, oui, le mélange vert, fromage,
c'est pas mal. Hein.
Très bon.
Manon Fleury, vous aimez ?
Je connaissais pas du tout et j'adore. Délicieux.
Ça régale.
Tout ce qu'on a envie de manger en vacances.
Ah ouais, moi j'aime
et Laurent, il a déjà
c'est très, très facile à faire. C'est
la gentil. Recette de la piadina italiana sur franceinter.fr à la page On va déguster, mais également dans le livre sandwich de Jean-Noël Escoffier avec les photographies de Rina Nura. Un tour du monde en 150 recettes chez Flammarion. Ce sacré Escoffier nous avait déjà fait le coup d'un excellent bouquin sur les boulettes.
Oui.
On l'avait d'ailleurs invité à cette occasion.
On était ensemble sur
le plateau. Et c'est devenu le spécialiste de la boulette. Un grand merci, chère Alessandra Pierini. Manon Fleury, vous êtes chef étoilé du restaurant Datil, dans le 3e arrondissement de Paris, un restaurant qui connaît beaucoup de succès sur la scène culinaire parisienne. Zazie Tavitian,
oui.
Journaliste, pigiste, reportrice, vous avez toutes les deux votre ronde serviette de chroniqueuse dans notre émission On va déguster, et vous venez de publier un cahier de jeu pour les vacances que vous signez à quatre mains avec une illustratrice qui a beaucoup de talent. Vous pouvez nous citer son nom ?
Oui, c'est Oriane Safré-Proust et qui par ailleurs travaille aussi en cuisine de temps en temps.
Ça s'appelle Amuse-Bouche, jeu, exercice et recettes pour tester vos connaissances en cuisine aux éditions de Noël. C'est vraiment le bouquin qu'il faut emmener en vacances pour saliver, s'amuser dans le train, dans les transports, en voiture. Et ce cahier de jeu coûte 14 euros et ça vaut son pesant de connaissances, de recettes aussi, parce qu'il y a des recettes notamment de Manon Fleury. Comment Manon est née cette belle idée ?
Bah c'est Zazie qui est venue me voir et qui m'a proposé ce projet. Mmh. Je crois qu'on avait envie toutes les deux de s'amuser et de pouvoir aussi apporter un peu de légèreté, parce que moi je suis plus habituée à proposer des recettes qui sont parfois un petit peu alambiquées, et on avait envie d'avoir ce cahier de jeu où on se prenait pas forcément la tête et avec des recettes très accessibles à faire vraiment en maillot de bain, en rentrant de la plage, ou même c'est pas forcément destiné que aux vacances d'été, mais ça peut être à d'autres moments où on a envie de s'aérer la tête.
Zazie ?
Oui, bah, y a ça. Bah, moi, j'avais évidemment envie de le faire avec Manon, parce que je pense qu'il y a déjà le fait que j'aime beaucoup sa cuisine et je l'aime beaucoup en tant que chef. Et il y a aussi, donc c'est, elle l'a dit, un cahier de vacances qui est fait pour s'amuser avec plein de jeux comme on peut trouver dans les cahiers de vacances pour enfants. Mais bon, là, c'est un peu plus quand même, je ne sais pas, François-Olivier, ce que vous en pensez, mais des connaissances plutôt pour les adultes, je dirais. Il y a différents niveaux de jeux, mais il faut quand même s'y connaître un tout petit peu en cuisine. Et on avait aussi envie de faire passer des messages, sans que ce soit lourdingue, mais en fait, quand on fait un cahier de vacances, on peut un peu inventer tous les jeux qu'on veut. Donc ça, c'est génial. Il y a par exemple un labyrinthe où un homme doit retrouver le chemin pour accéder à la cuisine sans échouer sur son canapé. Il y a ce genre de jeu aussi dans Amuse-Bouche.
Absolument. On apprend en s'amusant et en même temps, il y a de l'engagement, des mots fléchés, des coloriages, le jeu des 7 erreurs. Il y a des recettes, on l'a dit. Il y a également des anecdotes de Manon Fleury. Alors moi, j'ai adoré. Il y a une anecdote savoureuse que vous avez intitulée « La daube de la discorde ». Racontez-nous ce qui vous est arrivé un jour, Manon.
Oui, j'étais apprentie dans un restaurant de William Le Deuil, The Kitchen Gallery. C'était ma première année en cuisine.
Formidable table, quand même.
Exactement, hein. Et formidable endroit pour être formée. Et en fait, on m'avait chargée de jeter tout ce qui était daubé dans la chambre froide. Donc dauber en termes culinaires, ça veut dire passer périmé, en fait. Ce qui arrivait très rarement chez William Deuil, parce que je faisais quand même plus des curries que des blanquettes de veau. Le chef avait décidé, donc c'était le chef exécutif de William Le Deuil, avait décidé de faire une daube de bœuf. Et en fait, j'ai jeté l'entièreté de la daube de bœuf à la poubelle, alors qu'il avait mis beaucoup de temps à la faire. Voilà.
Ça fait un excellent apprentissage.
Exactement.
Et là, j'imagine qu'il vous a passé un sacré savon.
Ouais, j'ai pris un sacré savon.
Et ce qu'on aime dans vos jeux, c'est qu'ils sont effectivement au carrefour de très nombreux domaines, de disciplines, de connaissances. L'agriculture, l'écologie, la politique. Cuisiner, c'est aussi s'engager écologiquement et humainement. Est-ce que vous avez envie de jouer autour de ce plateau ?
Bien sûr, évidemment.
Manon et Zazie vont nous livrer une petite illustration de leur amuse-bouche aux éditions de Noël. Et vous allez voir, on va bien s'amuser. Alors, vous avez sélectionné quelques jeux, quelques questionnaires. On commence par quoi ?
On va commencer par un jeu autour d'une recette. En fait, on avait envie avec Zazie de mettre en avant des recettes qui voyagent.
Oui.
On est dans un cahier de vacances et dont on perd parfois l'essence avec une recette emblématique de la cuisine grecque, mais pas que. C'est un peu une recette emblématique des vacances en général. La salade grecque.
Alors, chers amis, vous avez des petits buzzers sous vos micros. Et Manon va effectivement vous « challenger », entre guillemets, mesurer vos connaissances sur cette recette iconique qui est la salade grecque, mais qui est, comme vous le dites, très souvent galvaudée.
Exactement. Et donc, vous devez trouver 7 ingrédients qui composent la salade grecque.
Alors, vous appuyez sur le buzzer et vous avez le droit à un ingrédient juste, égale un point.
Feta.
Un point.
Olive.
Laurent, un point.
Concombre.
Un point chacun, déjà.
Origan. Tomate.
Attends, attends. Alors l'origan, il est à quand même un état particulier.
Séché.
Séché.
Oui, bravo. Origan séché. Donc vous êtes déjà à 3 points.
Poivron.
Et vous l'avez déjà dit, non?
Ah oui, mais sauf qu'il n'y a pas de poivron.
Non.
Oignon rouge.
Bravo.
Huile d'olive.
Bravo.
C'est bon, je pense.
C'est fini, c'est fini.
On redit tous les ingrédients qu'on a entendus. Tomate, oignon, concombre, huile d'olive, olive, feta... Origan séché.
Bravo.
Et donc c'est Alessandra qui a gagné. Du coup.
Ah mais vous avez plié le match, Alessandra. Bravo.
C'est génial.
On a,
ça,
on a pas eu. Voilà, honnêtement.
Comme quoi, la cuisine grecque n'est jamais très loin de la cuisine italienne.
Tout à fait.
Allez, on continue à jouer. On vous propose cette fois-ci un petit combat de coq. La meilleure d'entre vous ne joue pas, c'est Alessandra.
Ah bon.
Par contre, c'est deux garçons, Jérôme Gagnès et Laurent Delmas, qui vont se livrer un duel, n'est-ce pas, Zazie?
Oui, alors ça, c'est un exercice qu'on peut classer dans la catégorie expression française, mention cuisine plus plus. Donc, il faut vous imaginer...
Je sais pas pourquoi tu me regardes comme ça, Zazie.
Je vous regarde un peu avec un air de défi pour vous mettre dans l'ambiance. Vous imaginez tous les deux, c'est votre premier jour, vous êtes commis dans les cuisines de Manon Fleury.
On vit la dauve.
Et donc là, Manon, elle va vous donner des consignes, quelque chose à faire, vous allez devoir la traduire.
On est prêt.
Alors, c'est une question, là aussi, évidemment, de rapidité. Un gros buzzer.
Donc, Jérôme Laurent, pouvez-vous me chiqueter cette pâte?
L'ABC?
Pas tout à fait.
Non.
La feuilletée?
Non.
Bon, perdu.
Ben, je sais pas.
Bah, chiqueter, c'est travailler les rebords en la pinçant légèrement, manière à la... Vous savez, quand vous faites, par exemple...
La crêne-lée.
Très bien, d'accord. Très bien.
Dans la cuisine française classique, donc quand j'ai appris à l'école, il y avait des pinces à chiqueter. Et il fallait, en cours de pâtisserie, pincer les bords de la pâte à tarte, et on était évalué sur ce chiquetage. C'était hyper stressant.
Ah ben, on est... Donc là, on était sec, Laurent.
Ouais.
Vous êtes surtout totalement à la rue.
Merci de nous le faire remarquer.
Merci beaucoup.
On continue.
Ordre de chef Fleury.
Pouvez-vous lutter cette cocotte?
Alors là, c'est
pour le coup, c'est facile.
Ça, c'est bien gagné avec un morceau de pâte à pain pour fermer une cocotte.
Bravo. Un point pour Jérôme Gagnès, mais Laurent avait la.
Non, il a été plus rapide.
Pourriez-vous fouler le fond de volaille, Laurent, s'il vous plaît?
Non, je ne l'ai pas.
Jérôme Gagnès.
Il me semble que c'est le clarifié, non?
Non. Est-ce que je leur donne les trois réponses qu'on a dans le livre pour les aider?
Allez-y, Zazie.
Réponse A, fouettez-le énergiquement pendant 10 minutes environ. Réponse B, passez-le au tamis. Réponse C, tordez-le dans tous les sens jusqu'à ce qu'il ne puisse plus marcher.
Non, c'est le passer au tamis pour le fouler ensuite et appuyer pour récupérer tous les sons.
Exactement.
Presser.
C'est ça.
Tamis, ouais. Comme on foule le raisin.
Dans un chinois fin avec normalement ce qu'on appelle un pochon. Et donc, on va venir fouler avec son pochon, c'est-à-dire appuyer pour que le liquide passe.
D'accord.
À l'utilisation du pochon.
Allez, une petite dernière. Pouvez-vous contiser le poulet, s'il vous plaît?
Jérôme Gagnès.
Contiser, il s'agit d'inciser la chair et d'y mettre quelque chose. On peut y mettre du chorizo, on peut mettre des truffes, on peut mettre tout un tas de choses.
Bravo.
Jérôme, on vous accorde le point parce qu'on est gentil, mais franchement, c'est pas tout à fait ça.
C'est comme la poularde de Mideuil. On glisse sous la peau des tranches de lamelles de truffe.
Et bien alors, il fallait appuyer sur le buzzer, Laurent Delmas.
Oui, moi je suis
lent. Et souvent, on incorpore la truffe dans du beurre. Et on va glisser le beurre sous la peau.
Avec une poche à douille.
On sera moins idiot. Oui.
Victoire d'une courte tête de Jérôme Gagnès. Sans la gloire, quand même.
Sans la gloire, oui.
Allez, une petite charade, Zazie.
Alors ça, c'est un exercice qu'on a surnommé coquille charade. Vous allez comprendre très vite pourquoi, il y a la coquille dedans. Mon premier est un gaz malodorant. Mon second est le mari de ta tante. Mon tout est un régal gratiné au four.
C'est ton oncle.
Bravo.
Là, j'ai entendu Laurent Gagnès. J'ai entendu Laurent Delmas.
On est fort pour ça. Le côté calon bourbon, tout ça, on est très très fort.
Allez, notre charade.
Je vous en fais une petite dernière pour vous, pour vous départager. Mon premier brille de mille feux. Mieux vaut se passer de mon second si on n'a rien à dire. Mon tout vaut si cher qu'on le surnomme le caviar de la mer.
Caviar de la mer ?
Ça ressemble pas à du caviar.
Ça vaut cher.
Très utilisé par les chefs japonais.
Mon premier brille de mille feux. Mieux vaut se passer de mon second si on n'a rien à dire. Mon tout vaut si cher qu'on le surnomme le caviar de la mer.
François Régis ?
Mais je réfléchis.
Ah bon, ça me fait plaisir.
On est tous collés là.
C'est pas la plus simple.
Il n'y a pas trois réponses, on en choisit une.
Non, non.
Bien joué. Un petit quiz musical pour vous départager.
Vous allez entendre des chansons et on attend de vous que vous nous donniez l'interprète et le titre.
Oh, les deux.
Interprète un point, titre un point.
C'est parti.
She was a working girl. Bob Dylan.
North of England
way. Tentez.
George Harrison.
Il y a du Beatles dans l'air.
Beatles, vous y êtes. Beatles. In the USA.
Ah ouais.
Et là, si vous tendez l'oreille.
Attention. And if she could only hear me,
this is what I'd say. Attention, ça va être maintenant la réponse. Honey pie, you are making me crazy. I'm in love, but I'm lazy. So won't you please come home?
Honey.
Honey quoi?
Honey.
Honey moon?
Honey pie.
Honey pie.
Tarte au miel.
On n'est pas bon.
J'avais jamais entendu cette chanson.
Ah oui. Deuxième chanson, facile.
Ah. Cornichon.
Bravo. Ah. Je ne sais pas qui l'a dit en premier.
Nino Ferrer, le cornichon.
Ah non, c'est
Laurent.
Pour une fois, j'ai une bonne réponse.
En revanche, les cornichons, attention, il y a une petite coquetterie.
Il y a une petite coquetterie qu'on va entendre dès maintenant. Un po' di pane e di banane, un panettone, del minestrone, la cioccolata e l'insalata, il baccalà. C'est la version italienne.
Mais alors, comment s'appelle la chanson en italien, la version italienne ? C'est pas du tout les cornichons.
Il bacala.
Bacala, ouais, bravo.
Bravo. Un point.
Bacala, c'est la morue.
Et oui, bacala, oui, comme en portugais.
Absolument. Alessandra Pirini, vous savez que vous avez un point commun avec Nino Ferrer.
Nous sommes de Gênes.
Ouais. Ah, tous les données à Genova.
Genova.
Nino Ferrari.
Exact.
On s'arrête là pour ce jeu-là.
On est obligé de s'arrêter là, mais il y a encore.
Merci beaucoup.
Merci bien vraiment. Oui, c'est très bien.
Questionnaire intitulé « Quel œuf est-il ? »
Jeu de mots.
Bravo.
À vous de jouer, Manon. Enfin, non, c'est pas à vous de jouer, c'est plutôt à vous de poser la question.
Exactement. Alors.
Attention à vos buzzers.
Œuf mollé.
6.
Oui.
Bravo, Alessandra. Un point.
Œuf dur.
3. Non, 9.
10.
9.
9.
Bon.
9.
Et donc, par déduction, l'œuf à la coque.
3.
3.
3, 6, 9.
3-6.
Bravo.
Ben oui.
Exactement.
C'est comme ça qu'il faut s'en souvenir.
Voilà. Bon, moyen mnémotechnique.
Le 10, il pourrait être toléré.
Le 10,
il
pourrait être toléré.
Moi, quand j'étais petit, c'était plutôt 10.
Ouais, ouais,
moi
aussi. Merci.
Et moi, j'ai aussi une alternative sur l'œuf mollet, qui est aussi un temps un peu moins important, mais je crois que c'est une manie cuisinière.
Vous diriez quoi ?
Plutôt 5 minutes, 5 minutes 50.
Ça, c'est le conseil de la chef étoilée Manon Fleury, qui nous a d'ailleurs concocté à base d'œuf. Une sauce assez particulière, c'est ça, Manon ?
Complètement, oui. Il y a des recettes qu'on tente toujours avec une petite appréhension. La mayonnaise en fait partie. C'est un geste classique presque anodin, mais qui peut basculer à la moindre contrariété. Œufs trop froids, huile versée trop vite, tout simplement avec un peu de précipitation. Résultat, une sauce qui tranche et une trop grande frustration comparée à l'apparente simplicité de cette sauce. Mais il existe une alternative que je trouve à la fois rassurante, stable et tout aussi savoureuse. Une sorte de mayonnaise revisitée où on va cuire les œufs mollets. Ce petit détour par la cuisson a deux avantages. Il stabilise l'émulsion et permet une meilleure conservation, jusqu'à 2 jours au frais, là où la mayonnaise classique vous demande une consommation immédiate à cause des œufs crus. Pour ce faire, il vous faut 3 œufs. Vous les cuisez mollets, c'est-à-dire donc pour moi 5 minutes dans l'eau frémissante, pas plus. Ensuite, vous les rafraîchissez immédiatement pour stopper la cuisson et puis vous les écalez soigneusement. Dans un petit bol d'un blender, vous déposez vos œufs mollets. Vous ajoutez une demi-boîte d'un thon confit à l'huile d'olive de bonne qualité, quelques câpres et une cuillère à soupe de moutarde. Vous mixez jusqu'à obtenir une base bien lisse. Et puis vient l'émulsion.
Vous versez de l'huile de tournesol en filet tout en mixant. Et dès que la texture devient crémeuse et stable, vous ajoutez 2 cuillères à soupe de jus de citron pour l'acidité, un peu de fleur de sel, et vous mixez une dernière fois pour bien lisser l'ensemble. Ce que j'aime dans cette sauce, c'est sa polyvalence. Aujourd'hui, je l'ai servie avec une salade de courgettes crues marinées, mais elle fonctionne aussi très bien avec un sandwich dans l'idée d'un pain bagna sur la plage, ou encore tout simplement en accompagnement de crustacés froids. Pour la salade, je choisis de travailler des courgettes vertes et je les ai taillées à la mandoline dans la longueur, en fin ruban, souple, et j'y ai ajouté un assaisonnement très simple, du jus de citron, de la fleur de sel, un peu de poivre, une huile parfumée, ici une huile infusée à la feuille de figuier, mais une excellente huile d'olive ou une huile de noix fonctionne aussi très bien. Cette sauce, c'est un peu une mayonnaise de la stabilité. Elle s'inscrit dans une démarche qui me tient à cœur, proposer des gestes simples, reproductibles, mais qui permettent d'élargir l'usage d'un produit du quotidien. Ici, on garde la rondeur, l'onctuosité et surtout, on n'a plus peur de rater.
Et oui, elle est inratable. Ah ouais. Moi, ça me fait penser beaucoup à la sauce du vitellotonato.
Mais oui, c'est ça. Vrai,
exactement.
Elle est très napolitaine.
On a le droit de rajouter une petite pointe d'anchois, Manon Fleury ?
Tout à fait.
Ah ouais.
Très belle sauce. Bravo. Une espèce de mayonnaise inratable à base de mollet. Bravo, parce que la mayonnaise, ça ne vous rappelle pas forcément de bons souvenirs, Manon, c'est ça ? Vous nous racontez dans votre cahier de jeu une sacrée anecdote ?
Comme j'ai été formée dans des restaurants plutôt étoilés, ben, on ne passait pas forcément par ces bases-là, parce qu'on ne faisait pas forcément de mayonnaise, qui sont des recettes qu'on trouve plutôt dans les bistrots. Et un jour, donc, quand j'étais devenue chef de partie, on m'a demandé de faire une mayonnaise pour le repas du personnel, et je ne savais pas faire la mayonnaise, parce que ma mère, j'avoue, m'a aussi élevée à l'huile d'olive et ne faisait jamais de mayonnaise à la maison. Et donc, je suis allée aux toilettes m'enfermer pour regarder comment on faisait une mayonnaise.
Un tuto sur YouTube.
Et je suis revenue exactement la honte. Voilà comment j'ai appris à faire une mayonnaise.
Bravo, et ça fait partie des anecdotes croustillantes, ainsi que des jeux, des charades, des coloriages, des quiz, des QCM que l'on trouve dans ce formidable cahier de jeu Amuse-Bouche, pour s'instruire.
Oui,
et pour rigoler même entre copains.
Ah oui, on a envie
Amuse-Bouche, jeu, exercice et recettes pour tester vos connaissances en cuisine avec les illustrations d'Oriane Saffré-Proust. C'est aux éditions de Noël. Et on a bien compris que c'était signé à 80 par nos amis Manon Fleury et Zazie Tavitsian. Bravo les filles.
Merci beaucoup. Merci.
Dans un instant, une super adresse tenue par une Française sur la Riviera italienne. Le coup de cœur breton de Zazie Tavitsian, un super plateau de... avec Laurent Delmas.
Merci.
Et la cuvée rouge de Jérôme Gagnès. Curtis Harding, There She Goes.
On va déguster. Sur France Inter.
Bienvenue sur le plateau dont on va déguster. C'est notre dernière émission avant l'été. Au menu, à boire et à manger pour passer un super été et un sapide d'été. On retourne en Italie avec Alessandra Pierini. Évidemment, quand on pense été, on pense toujours un peu à l'Italie. Et vous avez une super adresse qui va intéresser celles et ceux qui s'échappent du côté de la Ligurie. Tout votre province natale.
Oui, s'ils ont l'occasion de faire un petit détour, il faut qu'ils s'arrêtent absolument à La Spezia, en Ligurie. Déjà, la Ligurie, c'est cette fine bande côtière toute en longueur qui commence juste après la frontière à Ventimiglia et file jusqu'à la Toscane. La Spezia, c'est une des dernières villes. C'est aussi un port très joli, niché entre mer et collines d'oliviers dans le golfe des poètes. Beaucoup moins connu que les Cinque Terre ou Porto Venere qui sont des destinations très prisées juste à côté, mais elle est tout aussi charmante et elle est aussi beaucoup plus tranquille.
C'est encore la Riviera italienne.
C'est encore la Riviera, absolument. Et c'est là qu'une jeune chef française, pour qui j'ai vraiment eu un très très gros coup de cœur, Apolline Seut, originaire de Bayeux, en Normandie. C'est bien là-bas qu'elle s'est installée depuis mars 2024.
Chef française, normande, oui. Installée en Ligurie, c'est vraiment étonnant.
Une chef exceptionnelle, elle a juste 27 ans. Elle est tombée amoureuse de l'Italie et de la Ligurie, bien sûr. Je comprends très bien pourquoi. Elle a ouvert son restaurant qui s'appelle les Clarisse, dit Apolline.
Clarisse, c'est son prénom.
Les Clarisse, c'est... Non. Apolline, c'est son prénom.
Ah oui, c'est ça, pardon.
Les Clarisses, c'est le nom du restaurant parce qu'il est dans un ancien couvent de Clarisses.
D'accord.
Et c'est une délicieuse table qui est un petit peu à l'écart de la ville. Elle est entourée d'arbres et de verdure, juste à côté d'une ferme urbaine. Ça, c'est très important. Elle s'appelle gli Orti di San Giorgio, le potager de San Giorgio, qui cultive tout en bio et permaculture des légumes, des fleurs comestibles, des herbes aromatiques, du safran. Il y a des oliviers, des cunquatiers, des citronniers, des orangers. Et bien, Apolline a aussi sa parcelle et c'est là qu'elle cueille chaque matin. Wow. Tout ce qu'il faut pour mettre dans ses assiettes. Au menu, elle propose bien sûr la cuisine de Ligurie qu'on aime bien, les fleurs de courgettes farcies, les lasagnes al pesto, le minestrone, l'insalata di mare, les anchois farcies.
Ça fait rêver.
Mais aussi, elle fait quelques petits clins d'œil à la Normandie. Le pain, beurre normand et huîtres ne manquent jamais sur sa table, ne sont jamais trop loin.
Mais attendez, c'est une adresse qui fait rêver. Je pense qu'on va y aller ensemble.
Avec plaisir.
Et si vous nous écoutez, auditeurs ou auditeurs, c'est que vous passez par là-bas, faites-lui un petit coucou de la part dont on va déguster. Vous nous rappelez juste le nom du restaurant à La Spezia.
C'est Les Clarisse di Apolline.
Merci Alessandra de l'Italie. On file en Bretagne avec Zazie. Vous êtes allée rendre visite à des filles en bottes.
Et oui, François Régis, les filles en bottes, ce sont deux femmes, Louise Lefebvre et Lénaïque Geoffroy, respectivement maraîchères et chefs, qui ont eu la très bonne idée de monter ensemble leur auberge. Alors cette auberge, pour la trouver, il faut la connaître. Enfin, il y a peu de chances de tomber dessus par hasard. Elle ne se trouve pas dans un lieu très touristique, mais dans le petit village de Saint-Georges de Reintembault, aux portes de la Bretagne, en Ille-et-Vilaine. C'est un lieu que Lénaïque et Louise ont choisi, déjà car financièrement, il était encore accessible. Aussi car elles sont tombées amoureuses des deux longères en pierre de taille et du magnifique jardin. Cet endroit, avant, il appartenait à un couple d'anglais très férus de jardinage et donc de ces fameux jardins à l'anglaise. Je ne sais pas si vous voyez ces jardins très structurés avec des arbres palissés et beaucoup de perspectives différentes. Louise, elle a décidé de garder ça dans son jus, mais d'ajouter aussi sa touche petit à petit, donc un peu plus sauvage. Il y a désormais un espace dédié au maraîchage. Il y a aussi beaucoup de petits fruits, beaucoup d'herbes et de fleurs comestibles. Et dans le fond, il y a une prairie où Louise va planter bientôt tout un tas d'arbres fruitiers. Donc ça me fait penser un peu à votre adresse, Alessandra. C'est assez indescriptible comme lieu. Et les filles en bottes, elles sont installées ici aussi car le coin est très riche en paysans, paysannes qui proposent des bons produits. Elles travaillent avec beaucoup de maraîchers, fromagers, éleveurs locaux. Et tous ces bons produits se retrouvent dans l'assiette, car c'est surtout pour ça qu'on vient, pour la cuisine de Lénaïque. Elle propose un menu unique midi et soir. Donc il y a juste une option carnée ou végétarienne. Moi, quand j'y suis allée il y a un mois, il y avait par exemple en amuse-bouche des beignets de fleurs de sureau avec une mayonnaise au fenouil. Il y avait un plat végétarien vraiment excellent avec un bouillon de citronnelle et de gingembre plein de petits légumes primeurs, tous cuits de façon différente, petits pois, fèves, des navets rôtis avec des petites pâtes aussi, du sarrasin fait maison.
Ça fait rêver.
Vraiment délicieux, et en dessert, une gaufre avec des pêches au sirop et une chantilly et des pois chiches grillés caramélisés. Ça, c'était vraiment excellent, surmonté de fleurs de marguerite. Bon, c'est vraiment des goûts à la fois très francs, vraiment sublimés, et il y a beaucoup de travail dans l'assiette aussi, c'est assez impressionnant. Surtout qu'elles ne sont que deux pour absolument tout faire. C'est 30 euros midi et soir, donc un tarif unique, donc ce qui est vraiment un très bon prix. Et il n'y a qu'une vingtaine de couverts par service, donc vaut mieux réserver à l'avance. Et on peut aussi dormir, il y a un petit gîte pour 2-4 personnes, très mignon. Voilà, je vous remets toutes les infos sur le site lesfillesenbottes.com.
Et redites-nous où ça se situe en Ille-et-Vilaine ?
Ça se situe 8 rues, de la... même pas 8 la grande tournicotière, qui tournicote, comme son nom l'indique, à Saint-Georges-de-Reintembault.
Très bien, merci beaucoup Zazie pour ce bon plan qui nous fait vraiment envie. Alors je sais pas vous, mais je trouve que Laurent Desmas est particulièrement bonne patte aujourd'hui.
Ah, j'en ai
ça lui ressemble pas.
Et vous l'avez cherché longtemps
France
celle-là.
Inter.
3, 4. Allez-y.
On va déguster.
Je vous emmène à deux pas de Paris, les amis, à Vanves, très exactement, dans les Hauts-de-Seine. Mais je vous emmène chez une fromagère, et donc je vous convie à un véritable voyage aux multiples étapes gourmandes.
Beaucoup de talent au féminin dans cette émission.
Mais bien entendu. C'est une nouvelle boutique ouverte depuis novembre dernier, à deux pas de l'église de Vanves et du lycée Michelet. Elle est au 7 rue Louis Blanc, pour être précis. Elle s'appelle joliment Les Sauvages. On y est très bien accueilli par Ingrid Menet, qui a d'abord pris un soin particulier à faire de son commerce un beau commerce. Vitrine sur rue avenante, et à l'intérieur bio de bois pour la coupe, et même le dessin fait par elle-même du logo de son papier d'emballage, avec une belle farandole composée, comme il se doit, des trois dieux locaux, une vache, une brebis, une chèvre. Et une petite sélection, une vraie sélection aussi resserrée que rigoureuse de fromages qui ne sont vendus qu'affinés et à la perfection. Très majoritairement du au lait cru, comme il se doit. Et la patronne sait vous parler de chacun d'entre eux et de son producteur. Allez, je vous ai donc préparé une petite assiette de dégustation, comme une petite promenade en région fromagère, à déguster comme il se doit du plus doux au plus fort. En l'occurrence, les deux plus doux, ce sont des chèvres. Et celui qui a la forme d'un petit dôme, c'est un dôme de Vézelay.
Ah !
Voilà, fromage de chèvre, dôme de Vézelay, à déguster avec un petit melon de Bourgogne, c'est gouléant, ça va très bien. Et à côté, il y a une petite...
De chez Montanet, tant qu'à faire.
De chez Montanet, tant qu'à faire. On va pas se priver, évidemment. Et à côté, ça vient de Savoie, un autre chèvre qui est au miel de montagne. Qui
c'est
est
bon
extra... très fort, très costaud, que j'aime beaucoup. Donc, on est parti dans le Vézelien, en Savoie, et là, je vous fais remonter tout au nord, et même
et là,
vous faire passer la frontière.
On monte un peu en puissance, quand
et
même.
Et on monte en puissance avec un fromage que j'ai découvert chez Ingrid. Ça s'appelle le Herve, H-E-R-V-E.
Oui, des boîtes.
Qui est de Belgique. Et bien entendu, c'est de la famille des maroilles.
Ah oui, c'est
et
ça.
Moi, je trouve aussi d'une douceur confondante.
C'est vrai. Enfin, au départ, il nous dit au nez, j'existe.
Mais exactement. Et après, en
et
bouche...
Et ensuite, je fais... Ils fondent dans le paysage.
C'est d'un fondant merveilleux.
Et c'est très rond.
Mais absolument.
C'est très bon, ça appelle une bonne bière, ça.
Oui, c'est
voilà,
vrai.
Exactement, à la belge, tout à fait. Et puis, dernière incursion, alors là, on redescend totalement dans l'Aveyron.
Roquefort, quand même.
Roquefort, dans l'Aveyron. Et attention, pas n'importe quel Roquefort. L'une des quatre marques indépendantes par rapport à l'autre gros, dont on ne parlera pas ici. C'était le Roquefort Vieux Berger. Moi, c'est celui que je préfère, personnellement, après chacun ses goûts.
Et vous avez bien raison.
De Karl, on peut parler d'autres. Mais celui-là, je le trouve toujours d'une onctuosité, d'un gras, d'un fondant, d'une pointe comme ça, évidemment de vivacité, qui moi me réjouit toujours. Roquefort, Vieux Berger, on est en pleine saison, il faut le manger, c'est délicieux.
Bravo Alessandra, qu'est-ce que vous pensez de cette ronde des fromages?
J'adore, j'aime beaucoup ce chèvre frais du Vézelay, mais on sent beaucoup le miel dans l'autre chèvre aussi, c'est particulier,
c'est étonnant,
ça va
c'est
très
étonnant.
Très bien.
Alors, vas-y.
Une vraie découverte, le Herve, c'est ça?
Herve, c'est ça, exactement.
Bon, après, faut pas être trop à cheval sur son haleine, mais c'est très bon.
J'ajoute que Les Sauvages proposent également des produits laitiers, tout aussi bien sourcés, comme de délicieux yaourts au lait bio de la laiterie Fromaville, située où? À Saint-Ouen, en région parisienne.
Splendide.
Moi, mes trois préférés, c'est au sésame, à la verveine ou à la chicorée.
Mais vous y passez vos journées, Laurent Desmas?
Absolument. C'est aussi original que savoureux. Et sans oublier un petit rayon de charcuterie aveyronnaise avec une saucisse au Roquefort, vieux berger, dont je ne parviens décidément pas à me lasser. Quelques quilles aussi, Jérôme, du miel, des confitures, bref, un paradis pour les amateurs de fromage et de tout ce qui va bien avec et autour. C'est ouvert du mardi au samedi et jusqu'à fin juillet pour cet été. Ça s'appelle la fromagerie Les Sauvages à Vanves.
Ingrid Menet.
Voilà.
On va y aller sur votre conseil. Oui. Grand merci Laurent Delmas, vous savez en parler, vous aurez le droit de revenir à ce micro.
C'est gentil.
Et en parlant de fromage, cher Laurent Delmas.
Oui, et bien ça sera notre quiz estival. Et alors là, vous jouez tous, attention, hein, gardez vos buzzers. Oui, il est aussi question de fromage dans les films, et depuis belle lurette. Parce que la première fois, c'est en 1907. Le cinématographe des Frères Lumière n'a pas 10 ans, et Georges Méliès sort un film de 4 minutes intitulé « Les fromages automobiles ». Il est évidemment muet, et ne peut donc pas faire partie de ce quiz radiophonique. Mais il est très aisément visible sur Internet. Vous y verrez toute une rame d'une tramway parisien Bicêtre Chaillot, aux prises avec une robuste ménagère, qui transporte dans son grand panier des fromages forcément très odorants, tendance herbe maroilles, lesquels finissent par partir en courant. Cette tradition cinéphile fromagère a continué évidemment jusqu'à nos jours. Je vous propose donc un quiz pour reconnaître 3 films à pâte dure ou à pâte molle, celle-là elle était pour vous François-Régis, mais dans lesquels il est un peu ou beaucoup question de fromage. C'est parti pour le premier extrait.
Qu'est-ce que vous mettez sur le pain que vous trempez là?
Ah ça? C'est du maroilles.
Le goût des autres?
Oui. Du maroilles,
enfin, c'est en tout cas ça. C'est Bakri.
C'est un fromage que pas du tout. Un peu fort. Vous pouvez goûter? Non.
Je suis moins fort dans le bouc que l'odeur.
Bah non.
Bienvenue chez les ch'tis.
Eh ben oui.
Ah mais oui.
Ah mais oui. Évidemment, oui. Bienvenue.
La tartine de maroilles dans le café.
Évidemment, il s'agit bien sûr du film de Danny Boone, Bienvenue chez les ch'tis, tourné en 2008 et dans lequel le personnage de Danny Boone fait découvrir toutes les richesses culturelles, linguistiques et évidemment culinaires du Nord, jusqu'à l'odorant maroilles à tremper dans le café du matin. Le maroilles, ce fromage de la Thiérache, département du Nord et de l'Aisne, au lait de vache et qui doit son nom au bourg de Maroilles, où se situait une abbaye dont les moines affinaient les fromages locaux. Allez, place au deuxième extrait. C'est un film beaucoup plus récent et que j'aime sans compter, croyez-moi.
Bon, bah alors là, ça y est, hein. On a caillé.
22.
Bien. Le premier film de la très talentueuse Louise Courvoisier, Les aventures de Totor au pays du Comté, ont fait plus d'un million de spectateurs, hein, il faut le dire, avec à l'époque une sacrée promotion dans les salles de cinéma dans lesquelles plusieurs tonnes de fromage de Comté furent généreusement distribuées avant ou après les projections, histoire de faire revivre le cinéma en odorama. Et ici, le fromage n'est pas un prétexte à rire, mais il est l'autre personnage principal du film, avec entre autres cette séquence où on apprend à faire le Comté artisanal. Allez, dernier extrait, et c'est un film pour le moins récent.
Bah, si j'avais su que je venais, je vous en aurais ramené.
Manon,
partir un jour.
Mais comment? Mais Manon, attendez.
J'ai reçu Amélie Bonin il y a quelques jours chez Dathil.
La réalisatrice, absolument. Ah voilà, à ce jour, plus de 600 000 spectateurs sont en général tombés sous le charme de Juliette Armanet, ancienne candidate de Top Chef, et qui revient dans son village d'enfance, où ses parents tiennent un routier. Elle y retrouve aussi ses anciens copains, qui n'hésitent pas à la charrier.
C'était quoi ce que t'avais fait, la panna cotta Roquefort
Roquefort Café.
Attends, le thème c'était les associations étonnantes.
Oh bah dommage que le thème c'était pas les associations dégueulasses, t'aurais gagné direct.
J'ai comme l'impression que Manon Fleuret a remporté ce quiz cinéma et fromage.
Mais c'est un grand chelem, mais absolu.
Ciné et cheese.
Je vais faire le ciné avec le cheese.
C'est vrai parce qu'on l'a entendu très muette, elle déteste le fromage, Manon Fleuret. Quand
c'est
même.
Fou de gagner ce quiz alors que vous détestez le fromage, c'est formidable, bravo encore.
Merci Charles-Laurent Delmas pour ce très beau tour de France fromager, on s'est absolument régalé. Je ne sais pas si l'accord va être le mariage du siècle avec la bouteille de Jérôme Gagnès, on va voir ça.
On va déguster sur France Inter.
Bon ben, mon vin, si sublime soit-il, il est évidemment un peu à la peine face à des fromages de cette intensité, bien évidemment. Je vous parle d'un vin que je connais depuis déjà d'assez nombreuses années, et définitivement c'est pour moi un vin que je trouve tout à fait extraordinaire. Ça s'appelle Rocca Nigra, du domaine de Bablu en Anjou. Christophe et Antoine Daviaud, père et fils, vignerons depuis très longtemps, en bio depuis 96. C'est assez rare, il faut le souligner.
Ils n'ont pas attendu la grande vague du bio.
Non, un domaine qui est très proche de sa terre, très proche de ses plantes, très proche de ses vignes, qui produit sur les terres d'Anjou pas mal de cuvées différentes, mais deux cuvées en particulier, Rocca Nigra, roche noire, Petra Alba, pierre blanche. Rocca Nigra, c'est un cabernet Sauvignon sur des schistes, donc une roche noire. Petra Alba, c'est un cabernet franc sur des pierres blanches, donc sur le calcaire. Et donc ici, nous sommes vraiment sur un magnifique cabernet Sauvignon. C'est un cépage qui est capricieux, c'est un cépage qu'il faut mener à maturité. Il n'est pas évident. Sur les schistes, c'est plus facile. Il est à l'aise. Et il a le climat qu'il lui faut pour arriver à maturité. Et ce que j'aime beaucoup, 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 beaucoup dans ce vin, c'est que Christophe et Antoine, ils vont chercher les raisins vraiment mûrs. Mmh. Ils sont à la limite de la surmaturité. Alors, ça apporte quoi dans ce vin ? Ça apporte d'abord un nez envoûtant de crème de cassis frais, de gelée de mûre.
Moi, j'ai la myrtille aussi. À
extraordinaire,
fond.
Que j'adore. Et on perd complètement le caractère végétal du cépage. On a cette note fumée, oui, propre, oui, aussi au Cabernet Sauvignon. Et puis ensuite, en bouche, parce que c'est une longue cuvaison qui va permettre d'extraire très lentement, très délicatement, toute la matière de dépôt du raisin. On a un vin qui est sphérique, ample, qui est puissant, qui est concentré, qui est dense.
Même si les tanins ont un peu d'aspérité quand même.
Il y a un petit peu d'aspérité. C'est ça qui est formidable dans ce vin, c'est qu'il y a un très gros enrobage, il y a une gourmandise folle, il y a un confort et une sensualité dans la texture du vin. Mais en finale, on a ces petits tanins que certains sommeliers diront poudrés, pourquoi pas, croquants, en tout cas des petits tanins qui viennent comme ça réveiller un peu, d'apporter du relief et du dynamisme à la finale, dans une allonge formidable sur le fruit mûr, sur le fruit noir, sur la gelée de fruit noir. C'est un vin qui vaut 18 euros, c'est un vin qui va vieillir 20 ans. Ouais. On me pose souvent la question, que dois-je acheter ? Parce que mon fils, mon petit-fils, mon neveu est né, je voudrais acheter 2, 3, 6, 12 bouteilles. Mais les gars, ça sert à rien d'aller claquer 150 balles dans une quille. Vous allez chez Christophe et Antoine Daviau, vous faites l'acquisition d'un demi-container de Rocca Nigra, parce qu'à ce prix-là, il ne faut pas se priver, et vous pourrez fêter l'anniversaire du petit, son mariage, ainsi que quasiment ses obsèques, si vous êtes encore là, parce qu'il y aura assez de vin. C'est un domaine que j'aime beaucoup, je suis donc très heureux de vous partager cet amour que j'ai pour cette cuvée.
Donnez-nous les références, le nom du domaine et la cuvée.
Anjou, Brissac, 2018, cuvée Rocca Nigra du domaine de Bablu, Christophe et Antoine Daviau, et ça vaut 18 euros au domaine.
Ça me fait penser à des sublimes cerises à l'eau de vie.
Vous aimez ?
J'adore cette cuvée.
C'est très ample.
Bah non.
C'est puissant et ample. Mais il y a de la fraîcheur en fait, il n'y a aucune lourdeur. C'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce vin, c'est qu'il y a beaucoup d'équilibre, de la densité et beaucoup d'équilibre.
Alessandra, vous aimez ?
On sent le bois de réglisse.
Franchement, bravo à un prix... raisonnable, absolument.
18 euros pour de l'artisanat de haut vol, honnêtement, c'est pas volé. Hein.
Merci à toutes et tous pour ce Tour de France et d'Italie de nos plans gourmands de l'été. On est obligé de fermer la boutique, mais juste avant, je voudrais quand même vous signaler une actu. Saveur et Savoir, la troisième édition de ce festival consacré aux livres de gastronomie, aux cultures culinaires et au cinéma comestible, aura lieu à Uzès, dans le département du Gard, du 9 au 12 octobre prochain, en partenariat avec notre radio France Inter. Hein. C'est un événement que nous avons cofondé, Charles-Laurent Delmas, avec des amis locaux. La billetterie vient d'ouvrir. Vous pourrez d'ores et déjà prendre vos places pour de nombreux événements que nous avons mitonnés, masterclass, démo culinaire, dîner, séance de cinéma. Alors j'animerai moi sur la grande scène de l'Ombrière des masterclass avec de grandes signatures de la gastronomie, le monstre du sucré Pierre Hermé, le chef 3 étoiles Régis Marcon, la pâtissière championne du monde Nina Métayer, le top chef Philippe Etchebest et de nombreux autres chefs, auteurs, autrices, vignerons, vigneronnes, artisans, artisanes. On va déguster, dressera aussi le couvert en direct et en public depuis Uzès le dimanche 12 octobre à 11h. Entrée libre dans la salle de l'Ombrière, dans la limite des places disponibles. Et on va retrouver... dans ce festival notamment, une certaine Alessandra Pierini, Laurent Delmas, Elvira Masson, Jérôme Gagnez. Laurent, vous vous êtes occupé avec brio depuis le premier jour de ce festival, de la programmation cinéma.
Oui, et ben on va retrouver Amélie Bonin pour partir un jour, bien sûr. On va faire la fête autour d'elle en faisant du Capitole, le cinéma d'Uzès, qui est l'un des plus anciens de France. Une guinguette restaurant après la projection du film et avec la réalisatrice.
Et quel succès cette guinguette !
Ce sera un beau rendez-vous cinématographique et gourmand aussi.
Jérôme Gagnès, vous en serez pour nous parler vin ?
Oui, je suis allé à Uzès il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 semaines. J'ai goûté un peu plus de 130 cuvées. Donc j'ai la musette qui est pleine de bonnes surprises.
Alessandra, vous êtes également étroitement impliqué dans ce festival.
Nous organisons la sélection française pour le championnat du monde de pesto au mortier de Gênes en 2026.
C'est bon ça, je l'apprends
c'est
direct.
C'est un concours donc, qui est ouvert à tous et à toutes à partir de 18 ans. Les inscriptions sont déjà ouvertes et ça jusqu'au 10 septembre minuit.
À vos mortiers.
On a mis toutes les infos sur le site de l'émission.
C'était la dernière émission d'On va déguster de la saison. Mais On va déguster, figurez-vous, revient pendant tout l'été avec Laurent Thomas notre réalisatrice est Maria Pasquet. On vous a mitonné les meilleurs moments dont on va déguster et on vous les sert pendant tout l'été, du lundi au vendredi, de 11h à midi. Et Laurent Delmas, vous accompagnerez nos auditeurs et nos auditrices cet été ?
Tous les samedis matins de 10h à 11h pour parler d'un certain Alain Delon. Delon par Delon, c'est le titre de ce podcast en 9 épisodes pour tenter de percer les mystères de Mystère Delon.
Passionnant. Merci beaucoup Zazie, Manon, on vous retrouve avec plaisir la saison prochaine.
Avec grand plaisir, Gis.
Dimanche prochain à 11h, pas d'on va déguster, vous l'aurez compris. Mais un rendez-vous avec Francis Legault pour une série passionnante des médias francophones, Histoire de voix, une évasion dans le monde des grandes voix d'hier et d'aujourd'hui. Et on se retrouve, première émission de rentrée, en direct, le dimanche 31 août, si vous avez encore faim.